9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Après quasiment un mois d'absence et de rediffusion des excellentes émissions de Maître Serran, nous sommes, mes camarades, enfin de retour en direct pour cette 16e émission de l'année 2022. 16e, car je ne compte évidemment pas les émissions rediffusé. Alors, vous le croirez ou pas, mon cher Philippe, mais vous m'avez manqué.
Non.
Ne pas voir votre bouille tous les vendredis, ne pas partager cette petite heure fut un crève-cœur et je suis sûr que cela devait être la même chose pour vous. Alors dites-le.
Ah non.
Non, d'accord. Et ce, d'autant plus que j'avais hâte de vous raconter ma rencontre avec celle dont on ne prononce jamais le nom, celle qui a été à l'origine de notre première rencontre, tous les deux,
Sonia.
Il y a maintenant de nombreuses années. J'avais encore des cheveux et vous, vous étiez svelte, vous ne traîniez pas ce kölsch que vous avez aujourd'hui. Je vous précise d'ailleurs que j'ai eu du mal à la reconnaître tellement elle s'est faite tirer, la peau évidemment. Mais quelle folie s'empare des femmes qui se font tirer la peau, qui se font doubler, voire tripler le volume de leurs lèvres, et pas toujours celles qu'on croit, et qui finissent par ressembler à Dave Bogdanoff. Restez naturels,
oh
mesdames. Cela vaut aussi pour les hommes. Le temps est un artiste qui sculpte votre visage en fonction de votre âge. Il n'y a pas pire qu'une personne d'un certain âge et qui veut paraître trop jeune. On frôle souvent le ridicule. Bon, je vous ai passé le message, hein, mon cher Philippe, de cette amie commune. Maintenant, nous pouvons évoquer l'actualité qui fut bien riche, mon cher Philippe, non seulement durant cette semaine, mais durant ce mois. Alors, faute de temps, j'ai sélectionné deux sujets. Évoquons d'abord le nouveau gouvernement, mais c'est pas le plus important. Non, le plus important, c'est que le Premier ministre est une Première ministre. Et ce qui est surprenant, ce n'est pas que l'on ait une femme à la tête du gouvernement. Non, ce qui est surprenant, c'est qu'en 2022, et en France, la présence d'une femme soit considérée comme un événement. Si l'on avait désigné chez les talibans une femme à la tête du pouvoir, cela aurait pu être surprenant. Mais en France, qu'une femme soit désignée première ministre devrait être un non-événement. Et cela a tellement été un événement qu'on pourrait légitimement se demander si le président a choisi Madame Borne pour ses qualités ou uniquement parce qu'elle est une femme, ce qui serait plus dérangeant. On a l'impression que ça fait moderne de désigner une femme à un poste de responsabilité. D'ailleurs, le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, a laissé entendre qu'il privilégiait le choix d'une femme pour lui succéder à la tête de la centrale syndicale. C'est presque insultant pour celle qui sera peut-être choisie. On ne te choisit pas parce que tu es une femme ou un homme, on te choisit, on te recrute, car on pense que tu as les compétences pour tel ou tel poste. Restons toujours sur la thématique des femmes pour parler de ce qui a été qualifié de victoire, le port du burkini à la piscine de Grenoble, port du burkini qui a été suspendu par une décision du tribunal administratif. Précisons également que les femmes sont autorisées à se baigner seins nus. Eh oui, pour ma part, et dans la mesure où je doute que les femmes qui décideraient de se baigner seins nus soient les plus en forme, si vous voyez ce que je veux dire, j'aurais plutôt interdit la baignade seins nus, car voir des gros nibards tomber jusqu'aux genoux, ça donne pas forcément envie de faire des longueurs. Allez, assez parlé de nibards, à vous la parole au 01-53-48-3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle d'un spécialiste des nibards, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Et à part ça, je vous ai manqué, maître Serral.
Bien sûr.
Mais montrez-moi vos textes avant. Je les amenderai un petit peu.
Qu'est-ce qui a changé, là?
Alors, vous avez rencontré notre amie commune.
Eh oui.
Et dans quelles conditions est-ce que je...
Au tribunal.
Ah ouais?
Oui, parce que j'avais indiqué que je crois qu'elle a eu quelques démêlés avec la justice.
Mm-hmm.
Et voilà. Donc, elle était convoquée chez un juge d'instruction.
Mm-hmm. D'accord.
Du mal à la reconnaître, là, comme ça, spontanément. C'est-à-dire qu'elle s'est bien faite... Enfin, refaites la face, c'est terrible. Ouais, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les petites lèvres sont devenues ses vraies lèvres. Si vous voyez ce que je veux dire.
Maître Serran.
Non, mais c'est pitoyable. Enfin, c'est pitoyable, je ne sais pas. Après, ce qui se passe dans la tête des gens, mais se faire défigurer comme ça par la chirurgie.
Non, il y a une mode. Il y a une mode. Et je crois que c'est l'effet recherché aussi. Moi, j'ai posé la question. Et en fait, ce sont les nouveaux standards de la beauté, Maître Serran.
Bah, écoutez, je suis peut-être un vieux con.
Ah bah ça, oui.
Ah bon?
Ouais, ouais. Mais
il n'y a pas de doute.
Non, mais c'est comme ça qu'on vous aime, Maître Serran.
C'est gentil.
Bon, partez en week-end, ça vous fera du bien. Je vous envoie chez Madame Serran. Ouais. Vous avez besoin d'être un petit peu redressé.
Ouais. Non, mais d'abord, partez en week-end. Pourquoi je suis pas en week-end? C'est à cause de qui?
Bah, c'est parce qu'il faut que vous fassiez un peu de radio. Hein, un peu de radio.
C'est de votre faute, je devais partir. Ouais. Vous m'avez dit quoi hier?
Je vous ai dit, Maître Serran, voilà, votre public vous réclame. Et vous pourrez d'ailleurs poser vos questions à Maître Serran au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Si vous voulez, on a des bonnes adresses à vous donner en Turquie, Maître Serran, pour vos cheveux.
Pour les cheveux?
Ouais.
Non.
Avec Nadia El Bouguin, vous vous donnez ça, vous allez voir.
C'est, ah bon ça, ouais, elle a l'air surprise, là. C'est...
Non, non, elle, on a quelques amis là qui replantent des cheveux, vous allez voir, ça va être très très bien.
Ah ouais?
Ouais.
D'accord.
En Turquie, on vous fera un petit tarif de groupe, ah bah Maître Serran. Bien, on va parler un petit peu de droit et de ce sujet. Alors finalement, qu'est-ce qui vous a inspiré ce sujet? Vous avez vu un cas? Parce que en fait, finalement, c'est un vrai bon sujet.
Bah oui, alors le sujet, c'est l'accident de trajet,
oui,
pour aller
au travail,
sur son lieu de travail. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a été contacté par une personne qui a eu un accident de travail avec son véhicule de fonction. Donc on part du principe que si vous êtes sur votre lieu de travail, que vous soyez dans votre véhicule, que vous soyez dans votre bureau, en tout cas à partir du moment où vous êtes sur le trajet pour aller au travail ou pour revenir du travail, si vous arrive quoi que ce soit, c'est considéré effectivement, donc cet accident de trajet est considéré comme un accident de travail, et puis il n'y a pas de difficulté sur les prises en charge. La difficulté se pose à partir du moment où on considère que cet accident de trajet n'est aucunement lié au trajet, justement, entre votre domicile, alors qui peut être le domicile principal, mais ça peut être aussi une résidence secondaire, ça faut le savoir, et le lieu où vous allez officier, votre bureau, si vous vous rendez sur un chantier. Donc on part du principe que ça pose pas de difficulté. Là, la difficulté avec ce monsieur, c'est que comme maintenant la plupart des véhicules, on leur colle une petite puce là pour voir GPS, pour voir quel est votre trajet et si vous allez entre guillemets directement de votre lieu de travail à votre domicile. On s'est rendu compte, mais depuis quand même maintenant un certain nombre de temps, que il y avait entre guillemets des détournements de trajet, qu'il n'allait pas forcément directement de son boulot à son domicile, et il s'est fait entre guillemets prendre parce qu'il allait simplement faire ses courses après le boulot, c'est-à-dire que au lieu de rentrer directement sur son lieu de travail, il a été dans une grande surface faire ses courses. Il y a eu un accident de véhicule assez sérieux, donc indépendamment du véhicule qui est out maintenant, donc il a été blessé, et puis il a voulu mettre ça sur le compte de l'accident de trajet, et le litige est là-dessus, c'est-à-dire que la société considère qu'à partir du moment où cet accident n'est aucunement lié à une mission qui lui aurait été confiée même après son boulot, on considère qu'on est dans le domaine du trajet privé, et donc si c'est un trajet privé, ce sera pas pris, en tout cas pas reconnu pour l'instant par la société comme accident de travail. Donc le problème qui se pose, à la limite, vous voyez, ça vous arrive une fois, pourquoi pas, on peut essayer de disserter là-dessus. Avec ces véhicules maintenant qui sont entre guillemets fliqués, on nous a sorti sur informatique les différents trajets de ce monsieur depuis X temps, et la société tente de démontrer qu'il y a une sorte d'abus de la part de cet employé qui profite de ce véhicule de fonction pour des activités privées.
Mais il y a deux sujets différents là quand même. Il y a l'utilisation du véhicule de fonction et l'accident de trajet.
Bah oui, mais
c'est quoi la définition? Mais vraiment juridique, hein, de l'accident de trajet.
L'accident de trajet, la définition stricte et juridique, c'est je pars de mon domicile, encore une fois, domicile principal, domicile secondaire, peu importe, ou même une chambre d'hôtel si vous demeurez à l'hôtel, je pars de mon domicile jusqu'au bureau, jusqu'au chantier. À partir de ce moment-là, on considère que votre trajet, entre guillemets, d'un point A à un point B, aller-retour, si vous arrive quoi que ce soit, si vous avez le moindre problème, à partir de ce moment-là, c'est considéré comme un accident de travail. Mais dans ce que je vous disais, c'est lié aussi. Alors, il y a le fait d'utiliser le véhicule de fonction, mais indépendamment de ça, c'est qu'on considère que si je vous dis que vous repartez de votre boulot à votre domicile, vous arrive quelque chose sur la route, on considère, là encore, c'est un accident de travail. Mais vous repartez de votre boulot, vous allez faire des courses, vous allez chercher des enfants à l'école, et il vous arrive quelque chose à ce moment-là, on va vous titiller là-dessus. C'est-à-dire qu'on va vous dire que ce n'est pas un trajet direct du travail au domicile. Vous en avez profité une fois que vous êtes sorti du travail. Et d'ailleurs, là, c'est l'exemple avec un véhicule, mais s'il avait été à pied Et s'il était parti faire ses courses, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on considère que ça ne peut pas être un accident de trajet et donc ça ne peut pas être qualifié d'accident de travail puisque vous avez fait autre chose que d'aller d'un point A à un point B de votre lieu de travail à votre lieu de domicile. Donc, il faut faire quand même attention à ça. C'est-à-dire que il y a quelques années, entre guillemets, au niveau des statistiques, on a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de contestations de la part des employeurs sur cet aspect-là, même s'il y avait un décalage, même si vous déclariez un accident de trajet, entre guillemets, à quelques kilomètres de votre lieu de domicile ou autre, ça titillait personne et puis ça pouvait passer. Mais on constate que les employeurs sont de plus en plus pointus. C'est-à-dire on va quasiment vous fliquer pour être certain que ce que vous êtes en train de raconter est en cohérence avec ce trajet que vous avez pratiqué régulièrement. Et si on considère qu'il y a un écart ou même chose, si on considère qu'entre le moment où vous quittez le boulot et le moment où vous déclarez un accident de trajet, je dis n'importe quoi, mais 2 heures ou 3 heures après avoir quitté le boulot, on va se poser des questions et se demander si votre accident est réellement lié à votre trajet et donc s'il est réellement lié et s'il peut être qualifié d'accident de travail.
Ça paraît logique quand même, non ?
C'est pas que ça. Ça peut sembler logique quand on est le patron, mais ça je l'entends et je le comprends. Ouais, je vais pas faire semblant et dire qu'il y a eu des abus. Vous savez, c'est comme tout. C'est-à-dire que c'est ce que je disais. Il y avait une certaine souplesse.
Si vous utilisez votre voiture de fonction le week-end pour aller chez Castorama ou chez Leroy Merlin.
Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte, encore une fois, une sorte de souplesse de la part des sociétés. Alors c'était peut-être le bon temps, mais maintenant on a des sociétés qui sont encore une fois très pointues. Et cette histoire de véhicules quasi fliqués à la seconde, qui n'existait pas auparavant, aujourd'hui c'est aussi et surtout utilisé pour ça. Je peux l'entendre et le comprendre, c'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise, on doit faire en sorte que les personnes que vous payez, vous allez les payer pour l'activité liée à votre entreprise, à votre bureau, et pas pour que le type, voilà, aille faire ses courses ou dans un magasin de bricolage. Mais j'allais presque dire que ce raisonnement qu'ont les chefs d'entreprise, c'est un raisonnement qui est pas forcément partagé par des salariés, compris entre guillemets de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que les types qui se baladaient, enfin on a tous connu ça, on en connaît encore, qui se baladent avec des voitures de fonction et puis qui l'ont les week-ends, les petites, les grandes vacances et autres. Alors oui, évidemment, ça peut être sympa d'avoir la voiture de la société, et ce d'autant plus que les sociétés changent régulièrement de véhicule, donc on a un véhicule quasi neuf tout le temps et souvent des grosses cylindrées. Sauf que on a aujourd'hui des sociétés qui sont extrêmement pointues, et ça, on va vous pucer le derrière pour voir si ce véhicule, ou pour voir si, encore une fois, en dehors du véhicule, si le trajet que vous faites, eh bien, le trajet domicile-travail. Sinon, on considère que votre accident est un accident, entre guillemets, classique de la vie de tous les jours, et ce sera pas considéré
comme un accident de travail.
Ouais. Les conséquences sont importantes parce que si vous avez des séquelles à la suite de cet accident, et s'il est reconnu comme accident de travail, vous êtes aussi indemnisé par la sécurité sociale. Donc, c'est pas, voilà, il y a des conséquences financières derrière tout ça. Alors que si, effectivement, il est établi que, comme vous disiez tout à l'heure, que vous étiez au sein d'une grande enseigne pour faire des achats, et puis il y a un marteau qui vous tombe sur le pied, et ben à ce moment-là, c'est la vie privée, il y a personne pour vous indemniser.
Est-ce qu'il y a des conditions d'horaire justement pour les accidents de travail? Est-ce qu'on considère que un accident de trajet, c'est entre 2 heures avant la prise de fonction et 2 heures après? Est-ce que ça, c'est quelque chose de déterminé,
non,
ou pas?
Non, il y a pas. Alors ça relève de ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire qu'en vérité, il y a pas de timing particulier. Ça va être lié aussi au jour où ça s'est produit, les sociétés qui jouent entre guillemets, j'allais dire les pénibles, elles jouent pas les pénibles, elles défendent leurs intérêts et c'est légitime, vont également vérifier la circulation à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a X paramètres qui sont pris en considération. Est-ce qu'il y avait un autre accident sur la route qui fait que votre autoroute à ce moment-là est blindée et puis oui, vous restez 2 heures dans votre véhicule? Donc ce sont des paramètres où, comme ça, dans la vie de tous les jours, on s'en fout un peu, sauf que le jour où ça se produit, ce sont des éléments qu'il faudra poser sur la table pour établir éventuellement votre bonne foi.
Bien, vous allez poser vos questions à Maître Serran dans un instant au standard de Beurre FM. Je vous rappelle le numéro 01 53 48 3000, c'est Maître Boily qui vous accueille au standard. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et Maître Serran qui répond à vos questions au 01 53 48 3000. Maître Serran, vous voulez bien répondre à Liazé.
Non, j'arrête pas de tousser.
Ah oui, vous arrêtez pas de tousser, qu'est-ce que vous avez?
Je sais pas.
Vous avez fait votre test?
Test de quoi?
De...
Non.
Non?
Oh, se mettre encore un balai dans le trou de nez, là, non, non, ça va.
Non?
Non, non.
Oh, vous m'inquiétez, Maître Serran.
Non, heureusement que j'ai un masque.
Ah ouais. Allez, Liazide, bienvenue.
Bonjour, maître.
Alors,
allô?
Oui, maître Serran va vous écouter, Liazide.
Ok. Allô, salam alaikum.
Ouais, salam alaikum. Ça y est, je vous entends.
Vous allez bien, ça va?
Ça va, alhamdoulilah, et vous, Liazide?
Ça va très bien. En fait, c'est juste une question pour mon cousin, en fait. Larry s'est marié en 2012 en Algérie. Et en fait, il est venu, sa femme, elle n'a pas fait des papiers. Parce qu'en fait, il s'est marié en Algérie, mais elle a une carte de séjour. Elle vit en France, à Blois exactement. Et il est venu en 2019, mais en fait, sans visa.
Ah.
Voilà.
Alors, après le mariage.
Exactement, après le mariage.
D'accord.
Et par contre, sa femme, elle n'a pas déclaré comme quoi ils sont mariés.
D'accord. Enfin, elle ne fait pas beaucoup d'efforts pour régulariser monsieur, quand même.
Exactement. Alors, en plus, quand elle a fait son dossier... Elle a marqué comme quoi ils étaient paxés.
Ouais, alors c'est... en fait,
et il a trois enfants avec cette femme-là.
Avec madame, d'accord.
Bah, exactement.
Mais la procédure normale, à partir du moment où le couple se marie au pays, c'est de faire une demande de regroupement familial, et puis, et en particulier quand on a des enfants. Alors certes, les autorités françaises, je le dis souvent à la radio, sont très compliqués, mais les autorités françaises jouent le jeu. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est établir que le mariage est un vrai mariage. Là, vous me dites qu'il y a des enfants, donc il n'y a pas de doute sur...
C'est un vrai mariage.
Ben voilà, donc il n'y a pas de doute sur la situation. Ce qui me semble assez curieux, c'est les démarches de madame. Quel est l'intérêt de d'abord de faire en sorte que monsieur vienne sans visa? Alors ça aide pas, mais le pire, c'est de déclarer que c'est un pacte, c'est pas un mariage. Il y a une difficulté entre eux. Elle veut pas qu'il vienne sur le territoire français, en tout cas qu'il soit régularisé. Quel est l'intérêt de madame de faire tout ça, de lui compliquer la vie?
Je sais pas. De toute manière, il est là, il vient avec elle. Et au niveau des papiers, c'est vrai que c'est compliqué. Elle n'a jamais travaillé. En fait, à la base, en fait, elle est aidée par des temps, en fait.
Ouais, ah bah ça aide pas pour les demandes de regroupement familial, puisqu'en dehors, ça y a des conditions, et en dehors de la condition de logement. Et puis là, si vous me dites qu'il y a trois enfants, donc évidemment, la surface du logement doit être relativement importante. Il y a des conditions
financières. Non, en plus, elle a trois enfants déjà avec un autre mari. Là,
avec un autre mari. Mais là, avec
elle s'est mariée il y a longtemps. Elle a eu trois enfants. Elle a divorcé. Et entre-temps, elle a vu mon cousin, ils sont mariés en Algérie. Maintenant, il a trois enfants qui sont nés ici en France. Il vit avec elle maintenant. Hein.
Ils d'accord, sont mais là, votre cousin, il a trois enfants. Donc en tout, il y a six enfants.
Exactement. D'accord. Il y a six enfants dans le logement.
Ouais, donc déjà, les conditions du logement...
C'est un logement à quatre pièces. Hein. Il est grand, de toute manière, il n'y a pas de problème au niveau du...
Vous avez rajouté une autre condition, il y a des conditions financières.
Ouais.
Et les conditions financières... Ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que le deal avec l'État français, c'est dire vous pouvez faire venir votre conjoint à partir du moment où vous pouvez subvenir d'abord à vos propres besoins, éventuellement aux besoins du conjoint. Si vous me dites que cette femme vit déjà avec les aides de l'État, voilà, vous comprenez bien que les autorités françaises n'ont pas envie de donner le feu vert pour faire venir monsieur et en gros se dire... c'est l'État qui fait vivre cette femme, et donc demain, il faudra que l'État mette encore la main à la poche. Donc en fait, il y a zéro condition pour permettre, ou en tout cas qui aurait pu permettre, un regroupement familial. Et là, le fait que votre cousin soit venu sans visa, ça complique la vie. Ouais, on l'avait déjà évoqué, je vous avais dit qu'on le veuille ou non, mais la probabilité de régulariser quelqu'un sans visa reste quand même assez faible. C'est très compliqué.
D'accord.
Donc, et vous me dites qu'elle a déclaré que, comme quoi il s'agissait d'un pacte, c'est pas d'un mariage?
Oui, parce que, à la base, ils sont mariés déjà une fois. Mais même, ils sont mariés en 2010. Et quand elle est venue en France, elle a déclaré comme quoi elle était mariée, ils ont retiré ses aides. Qu'est-ce qu'elle a refait? Elle est repartie en Algérie, ils ont redivorcé. Ils sont remariés, et là, vous comprenez, en fait.
Moi, je comprends. C'est l'administration qui aura du mal à comprendre. Vous voyez, je trouve ça même, comme dirait l'autre, pitoyable. C'est-à-dire que, vous savez, faut pas oublier que ces aides et tout ce que donne l'autorité française, elles sont financées par vous, par moi. Enfin voilà, mais même moi, des gens comme ça, j'en veux pas. C'est-à-dire qu'une femme pareille, alors je, comme dirait l'autre, vous me dites qu'elle a une carte de séjour, mais si demain on me dit à cause de ce genre de fraude, on est prêt à dégager des gens de cette nature, mais je voterai pour. C'est quand même insupportable d'entendre ça.
C'est-à-dire que. Mais c'est ce que je vous dis.
Ah oui, c'est gratter l'État. Donc c'est vous grattez vous, moi et d'autres. Et d'abord, et ça énerve, et qu'on le veuille ou non, ça justifie parfois aux yeux de certains cette montée de l'extrême droite et de l'intolérance. Mmh. Mais quand c'est motivé comme ça, c'est terrible. Mais même moi, je peux le comprendre. Et en plus, ça va pourrir la vie de votre cousin. Vous comprenez bien que les autorités françaises sont pas débiles. Mais donc ça lui complique la vie. Il est en France en situation irrégulière. Il est rentré sans visa. Enfin, quel est l'avenir pour votre cousin? Alors, pas à cause de lui, mais à cause de madame surtout. C'est ça la difficulté. Donc, enfin, moi à sa place, j'allais presque dire, pardon pour le thème qui est pas joli, mais je me débarrasserai de madame, je divorcerai, et il a plus de chances d'être régularisé en qualité d'homme séparé, puisqu'il obtiendra quand même une décision qui dit qu'il a à minima un droit de visite sur les enfants. Donc au moins ça, mais là je vois pas comment il pourrait régulariser facilement sa situation avec une femme qui, et elle sera présentée comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a escroqué l'État tout simplement.
En plus il y a un calvaire des fois.
Non mais quand on est comme ça, vous savez, quand on essaie, pardon pour le terme, mais d'entuber l'État, on entube tout le monde. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas après spécialement sympa avec son conjoint ou sa conjointe. Donc, j'allais dire une personne pareille, il vaut mieux. Mais même, pour son dossier, il vaut mieux qu'il se présente comme personne divorcée que mariée avec une femme qui est fichée au niveau des services.
D'accord. Ah oui, d'accord.
Donc ça ne l'aidera pas à régulariser sa situation s'il reste le mari de cette femme.
D'accord. Mais par contre, au niveau de ses enfants, parce que sa plus grande fille, elle a 7 ans. Au niveau de ses enfants, ça sera pas possible qu'un jour ils obtiennent s'ils sont plus grands.
Si, mais de toute manière, vous savez déjà à partir du moment où. Pourquoi je. Bon, après, il a peut-être pas envie de divorcer, hein. Mais dans l'hypothèse où il aura quand même à minima un droit de visite, et puis s'il a un appartement, il peut aussi bénéficier d'un droit d'hébergement. Mais ne serait-ce que par rapport à ses enfants, être régularisé peut être jouable. Là, le problème, c'est que la régularisation. Au moment où on se parle, elle ne peut se faire que par rapport à madame. Mais madame est blacklistée de ce que vous êtes en train de me dire.
Mais je veux dire, elle n'a jamais travaillé de sa vie.
Vous voyez, donc... donc il ne pourra jamais être régularisé par rapport à son épouse. Par contre, je ne dis pas que ça va être simple, mais il peut faire en sorte d'être régularisé par rapport à ses enfants. D'accord. Et je crois qu'il vaut mieux jouer la carte de « je me suis éloigné de madame ».
D'accord. Parce que moi, je pense qu'elle a déclaré pacsé. En fait, je pense que c'est pour pas qu'il lui fasse les papiers, parce que je pense qu'elle veut le garder à côté d'elle, qui s'occupe de ses enfants. Je lui dis comme ça. Hein. Moi, je pense que c'est dans ce but-là.
Ça ressemble plutôt à ça. Enfin, elle fait pas beaucoup d'efforts pour le régulariser. Donc, après, on peut effectivement se poser toutes les questions du monde. Mais c'est pas le comportement de quelqu'un qui souhaite régulariser son conjoint.
D'accord.
Donc, méfiance.
Ok. Je vous remercie, maître.
Merci à vous.
Merci, Yazid. Alors, c'est Malika qui est avec nous, maître Serran, direction Toulouse, 01 53 48 3000. Malika, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Malika.
Ça serait pour poser une question à maître Serran, s'il vous plaît.
Ben oui, ça nous plaît. Oui,
ouais. On a beaucoup d'appels de Toulouse, d'ailleurs.
Je lui avais envoyé un mail, j'avais attendu la réponse, mais on n'avait pas eu de réponse. C'est par rapport à mon oncle qui est en Algérie, qui est né en France à Puteau. Et ses parents, à l'âge de 1 an, ils sont rentrés en Algérie et ils voulaient savoir s'ils pouvaient demander la réintégration de sa nationalité, vu qu'il est né en France.
Alors, la réintégration et la naturalisation, c'est, j'allais dire, la même procédure. C'est le même dossier qu'on doit remplir. Il y a juste une petite case réintégration ou naturalisation. Donc, là, comme ça, spontanément, les conditions le permettraient. Pour autant, c'est pas parce que je vous réponds ça que l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet, dire bon bah ok, il est né en France, après il est retourné au pays, c'était une volonté de ses parents, mais sur la base de sa naissance sur le territoire français, on peut éventuellement envisager une réintégration. Il faut savoir que en la matière, le préfet dispose de ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire. Et discrétionnaire, on le dit souvent ici, ça veut dire je fais ce que je veux. Donc oui, le préfet oui. pourrait, pour des raisons X ou Y, dire ben moi je veux pas. Alors après là, le c'est motivé sérieusement ou pas sérieusement, à charge pour votre oncle éventuellement de contester si la réponse qui est apportée est considérée comme borderline au niveau motivation, c'est-à-dire l'explication qui est donnée, si elle n'est pas très sérieuse, il pourrait contester. Mais sur le principe, bien sûr, qui peut formaliser une telle demande.
D'accord, il faut la déposer directement auprès du tribunal administratif.
Non, c'est pas le tribunal administratif, hein, c'est l'autorité préfectorale.
C'est quoi la procédure?
Là, il est où là, oui. votre oncle?
Il est en Algérie actuellement.
Il est ingénieur?
Non, il est en Algérie.
Ah, en Algérie, oula, au secours. Alors,
si vous dites il est où et que la réponse est en ingénierie,
justement,
vous m'inquiétez, maître Serral.
Non, mais j'étais surpris
en
justement
Algérie.
Par la réponse. En Algérie.
Oui.
Alors, dans ce cas-là, il fera la demande auprès des autorités consulaires.
D'accord.
Mais pour l'instant, parce que je vous ai parlé du tribunal, mais pour l'instant, le tribunal administratif, il s'occupe de rien. C'est-à-dire que le tribunal administratif, il n'intervient qu'à partir du moment où on considère que les autorités françaises refusent.
Donc techniquement, là, la procédure est laquelle? Donc, l'oncle est en Algérie.
Il saisit les autorités consulaires françaises.
Voilà.
Donc avec son acte d'état civil, avec une explication de la situation concernant ses parents. Alors, vous verrez, il y a 4-5 pages à remplir, des documents à fournir. Et puis à partir de là, il faut qu'il fasse preuve de patience. Les autorités françaises, en matière de naturalisation, en matière de réintégration, prennent leur temps. Alors, prendre son temps, ça veut dire statuer dans un délai, si c'est entre un an et demi, c'est un délai entre guillemets normal. Donc, d'accord, ça peut sembler long, et ça l'est, mais voilà, faut pas s'inquiéter si avant ce timing-là, il n'a pas eu de réponse. C'est un délai normal.
D'accord. Alors il faut qu'il fasse une demande de naturalisation, c'est ça?
Non, de réintégration de ce qu'on est en train de se dire. Mais de toute manière, c'est le même dossier.
D'accord.
Bah, c'est exactement le même dossier.
Sur Internet?
Pardon?
Il y a un dossier à télécharger.
Absolument.
Sur Internet?
Voilà. De toute manière, il est à télécharger. Sur Internet, vous trouverez, vous tapez n'importe quelle préfecture et puis vous aurez accès à ce formulaire. Et encore une fois, je vous disais, c'est le même dossier. Et tout en haut de la première page, on vous dit naturalisation ou réintégration. Et puis, il va falloir mettre une croix là pour la demande de réintégration.
D'accord, ok, d'accord. Et ça équivaut pour ses enfants aussi? Est-ce qu'ils y ont droit ou pas?
Si demain, il en bénéficie, les enfants mineurs et seulement mineurs peuvent également en bénéficier.
Ah,
il faudra, ah oui, hein, que les mineurs, hein. Et il doit le préciser sur le dossier, parce qu'il arrive parfois que des personnes deviennent françaises par naturalisation ou réintégration, et
oui.
Ça me semble curieux, mais ces personnes n'indiquent pas qu'elles ont des enfants, et même si vos enfants sont mineurs, si vous l'avez pas précisé au dossier, vous êtes le seul à bénéficier de la nationalité française. Donc si vous avez des enfants mineurs, il faut le préciser. Et d'ailleurs, souvent.
Et ces enfants, s'ils sont tous majeurs, ils ont droit à rien.
Ah non, non, non. S'ils sont majeurs, à charge pour eux de faire une procédure de leur côté. Mais là, le côté automatique ne concerne que les enfants mineurs.
D'accord, d'accord. Et est-ce que je peux vous poser une autre question, s'il vous plaît?
Avec l'accord du grand Manitou, mon cher Philippe, est-ce que madame peut poser une nouvelle question?
Oui, si ça tient dans les deux minutes, on y va, Malika.
Allez. D'accord. Et parce qu'en fait, c'est j'ai ma cousine aussi qui est mariée avec un Allemand, mais bon, elle est toujours en Algérie. Mais ses enfants, bon, ils ont les papiers, mais elle a rien. En fait, elle voulait savoir que si elle venait en France, elle aurait droit à quoi?
Mais là, monsieur, il vit où?
En Algérie aussi.
Ah,
ils ont les papiers, quoi. Si vous voulez, il a les papiers allemands, ses enfants aussi.
Ouais.
Mais la
non, mais
la
si elle vient en France, il y a rien qui la rattache au territoire français. Bah, à la limite, voilà, ça peut se jouer peut-être avec les autorités allemandes, de par la nationalité de monsieur.
Oui, mais non, apparemment, ils lui ont dit, elle avait posé la question, apparemment, ils lui ont dit qu'il fallait qu'elle reste un an en Allemagne pour pouvoir.
Ah oui, non, mais il y a probablement des conditions particulières en Allemagne que je ne connais pas.
Ouais.
Mais par rapport aux autorités françaises, il n'y a rien qui la rattache ni de près ni de loin à la France.
D'accord, c'est vrai, elle a droit à rien, même si elle
est ici. Non, si ce n'est que, mais ça on l'entend tout le temps, on me dit souvent, ben oui, mais la France était une ancienne colonie. Oui, mais dans ancienne colonie, il y a ancienne. Donc il n'y a, rien, de, en tout cas, de ce que vous êtes en train de me dire, qui peut faire en sorte de rattacher votre cousine au territoire français. Donc, territoire allemand, probablement, avec les, des conditions, j'imagine, particulières. Mais par rapport à la France, non, il n'y a rien qui la rattache.
D'accord, bon, mais ok, je vais le lui dire alors.
Voilà, elle peut venir éventuellement comme touriste, vous voyez, mais pas plus.
Non, elle voudrait, elle, s'installer en France.
Ah non, c'est, c'est injouable. Enfin, voilà, sauf si elle a un doctorat en physique nucléaire et puis, vous voyez, qui peut intéresser la France. Mais sinon, là, comme ça, spontanément, non, il n'y a rien qui la rattache à la France.
Bon, mais d'accord, ok. Bon, mais c'est gentil, merci beaucoup, Maître Serra.
Merci à vous pour votre appel.
Merci, Malika.
Allez, au revoir, bonne journée.
Merci, allez, d'autres questions, Maître Serran, dans un instant. Vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Maître Serran répond à vos questions en direct au 01 53 48 3000. Vous avez bien fait de ne pas partir en week-end, Maître Serran, puisqu'il y a des questions pour vous.
Oui, mais je pensais que les gens allaient peut-être bouger un peu ou se reposer.
Non, les gens sont là.
Les gens sont
là. Ils veulent vous parler. Alors, nous avons Nadia qui est avec nous. Nadia, bonjour et bienvenue. Nadia. Nadia, elle n'est pas là? En 5.
Elle est enceinte?
En 5.
Non, en 5.
En 5.
Décidément, là, j'ai un problème d'audition, je crois, non?
Oui.
Ouais, je crois, ouais. Ouais,
c'est ça, vous êtes vieux, vieux comme vous dites.
J'ai des vieilles oreilles.
Nadia.
Allô?
Oui, voilà. Bonjour Nadia.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Nadia.
C'est Nadia, en fait, de Paris.
Bonjour Nadia de Paris.
Nabila.
Ah, Nabila. Oh là, bon, au secours.
Oui.
Bon, alors Nabila, on vous écoute. C'est Philippe qui dit n'importe quoi.
En fait, oui, merci. En fait, je voulais vous poser une question à propos de ma grand-mère. Elle a vécu en France dans les années 80-90. Et elle est rentrée en Algérie. Et depuis, elle n'est plus revenue. Ma question, est-ce qu'elle peut faire un visa touristique et en arrivant en France elle peut récupérer sa carte de séjour?
Alors, est-ce qu'elle peut faire un visa touristique? Oui. C'est-à-dire que chaque personne demeurant de l'autre côté de la Méditerranée ou ailleurs peut demander aux autorités françaises un visa pour venir en qualité touriste. Mais imaginons que ce visa lui soit accordé. Il n'y a rien, en tout cas, qui est prévu dans les textes et qui prévoirait une sorte d'automaticité en disant « je suis sur le territoire français, maintenant je veux récupérer une carte que les autorités françaises ont bien voulu me donner il y a quelques années ». Et pour la simple et bonne raison que vous avez utilisé le terme, c'est un visa en qualité de touriste. Donc je viens, je fais les visites que j'ai envie de faire, je vais voir la famille et il faut que je reparte. Donc si elle se maintient, vous voyez, si la France lui accorde ce visa et si elle se maintient en espérant, entre guillemets, solliciter un titre de séjour quelconque, elle se trompe. Donc la France ne lui accordera pas puisque on lui a à l'époque donné un titre. C'est un choix dans la vie. Elle a décidé de retourner au pays et donc de restituer son titre. Je vois pas ce qui pourrait aujourd'hui, juridiquement parlant en tout cas, lui permettre de récupérer ce titre.
Et en sachant que mon grand-père vivait toujours ici en France, mais elle ne s'entend pas bien avec lui, donc il ne souhaite pas qu'elle revienne.
Alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que si... ils sont toujours mariés.
Ils sont toujours mariés. Il vit avec une Française, mais il est toujours marié avec ma grand-mère.
Ouais, mais vous voyez, donc, dans cette hypothèse-là, elle peut pas jouer entre guillemets en solo, c'est-à-dire qu'il faut évidemment que les informations soient communiquées par son mari. Et je crois comprendre s'il vit avec quelqu'un, c'est qu'a priori il a pas forcément envie de voir son ex et qu'il l'est pas puisqu'ils sont toujours mariés. Donc ça va se jouer là-dessus. Mais si elle est incapable, en gros il suffit pas de dire écoutez mon mari est sur le territoire français. Il faut qu'il y ait une participation active de monsieur. Pour dire, voilà, ma femme est au pays et puis j'aimerais la faire venir. Mais s'il vit avec quelqu'un d'autre, c'est qu'a priori, il a changé de casserole. Si je puis m'exprimer ainsi.
Il n'aura pas de lui fournir ses fiches de paie ou quoi.
Ah ben non, mais j'imagine. Enfin voilà, si vous me dites. Et ça fait longtemps qu'ils sont. Qu'ils vivent pas ensemble, manifestement, non?
Oui, lui, il vit en France depuis l'indépendance et il rentre très rarement. Voilà. Et il n'est plus retourné en Algérie depuis 2008.
Ça, donc ça il n'a pas vu son épouse depuis 2008.
Ah oui, même moi, je l'ai connu.
Honnêtement, quand bien même, il fournirait des fiches de paye. Enfin voilà, les autorités françaises sont pas folles, c'est-à-dire qu'on se poserait quand même la question de savoir quelle est la fréquence des voyages de monsieur. Bon, on peut être marié et avoir son épouse de l'autre côté de la Méditerranée ou son mari, mais il faut qu'il y ait une logique. Là, le lien familial fait que on peut justifier d'aller au pays à minima au moins une fois par an pour aller voir sa femme, son mari. Mais là, depuis 2008, enfin voilà, pardon pour l'expression, mais les autorités préfectorales vont sentir la patate. C'est-à-dire que c'est pas pour faire venir madame et puis partager une vie en commun. Donc non, ce serait injouable. Et donc quand bien même, je le redis, on lui accorderait un visa en qualité de touriste, je vois pas comment elle pourrait être régularisée.
D'accord.
Mais elle a quel âge, votre grand-mère?
80 ans. Elle est assez âgée quand même.
Ouais. Mais indépendamment de l'aspect juridique, à 80 ans, on a envie de rester sur le territoire français? Pour faire
elle
quoi?
Elle a vécu ici, oui, elle a envie de revenir.
Ah oui, mais elle est partie il y a 3 siècles.
Elle n'est pas partie de sa propre volonté, parce que mon grand-père a fait faillite, il avait des commerces et tout. C'est pour ça qu'ils sont rentrés en Algérie.
Et lui est revenu?
Lui, il est revenu, ouais.
C'est un loup, le grand-père. Ouais. C'était une ruse, tout ça, en fait, c'était une ruse. Il n'a pas fait faillite.
Parce qu'il vivait en même temps avec ma grand-mère et la française en même temps.
Ah, c'est un double loup. Non, oui, non, enfin, j'avais bien senti le truc. Oui, c'est assez classique chez le maghrébin.
Oui.
Voilà. Ouais. Et en particulier, quand on accompagne madame au pays en lui disant, mais voilà, je vais revenir. Alors, il revient de temps en temps, il lui fait un enfant, mais la vie de tous les jours, il la passe avec une personne en France. Voilà. Le maghrébin est un loup. Mais c'est pas beau. Moi, je considère que c'est pas joli. Je vois que Nadia El Bouga me regarde quasi de travers.
Bah non, mais là,
je viens de dire que c'est pas beau. Donc, est-ce que je suis pas en train d'acquiescer sur cette ruse? Je dis que c'est pas joli. Mais non, ça me semble sincèrement. Encore une fois, malheureusement, je vois pas comment, juridiquement parlant, elle pourrait venir sur le territoire français.
En tout cas,
sauf en qualité de touriste.
En tout cas, le grand-père est organisé.
D'accord.
Bah manifestement, il est organisé.
C'est un monsieur organisé. Ouais. Voilà. Bien organisé.
Ouais, mais bon, c'est pas joli, mais bon, il fait travailler le nécessaire.
Bon, en tout cas, pour ce qui concerne les papiers et le visa de la grand-mère,
visa en qualité de touriste.
Oui.
Oui. Au-delà.
Oui, mais elle pourra
la
pas
probabilité est infinitésimale. Non.
D'accord.
Non.
C'était la
merci
question
beaucoup.
De Nabila. Merci Nabila.
Merci.
Oui, Nabila.
Merci. Bonne journée.
Merci Nabila.
Au revoir. Alors. Si le grand-père veut nous appeler, il nous racontera un petit peu comment il s'est organisé au cours de toutes ces années, quand même.
Ouais, c'est vrai, ce sera intéressant, ouais.
Alors, Fatima est avec nous. Fatima, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, Fatima.
Oui, bonjour.
Voilà,
moi, j'ai une question pour le maître.
Pour le maître, il n'y en a qu'un. Non, c'est ça qui est important, c'est que vous avez bien compris qu'il n'y en avait qu'un.
C'est vrai.
C'est oui. Le maître. Le maître, c'est Maître Serran.
Oui. Merci pour cette précision, cher Philippe.
Oui. Alors, en fait, ma question, en fait, moi, ça fait 15 ans que je suis en France, je suis mariée, et je voulais faire la nationalité française. J'ai fait une demande, j'ai fait un dossier. Par contre, ils m'ont demandé de faire une attestation, en fait, de TCF, c'est par rapport à mon niveau de français. Je l'ai fait. Par contre, en fait, j'ai eu le diplôme et le diplôme, c'est pour la demande de nationalité française, il faut le B1 et moi, le B1, il n'est pas atteint. En fait, il est
raté. Le niveau B1, oui. Mmh.
Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Parce que
à part améliorer votre français et votre culture, il n'y a rien d'autre. Non, mais. C'est terrible parce que vous échouez entre guillemets à deux doigts. Mais oui. Non, il y a pas d'autre option. Il y a pas d'autre option. Comme tous les pays du monde, la France fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'on considère, alors justifié ou pas justifié selon les uns et les autres, mais la France considère que pour être français, il y a un certain niveau à atteindre. Une maîtrise de la langue, de la compréhension de la langue, de culture générale. Donc c'est vrai qu'il y a ces niveaux-là, mais si on vous demande ou si on exige tel ou tel niveau et que vous n'avez pas atteint ce niveau, il n'y a pas d'autre, chemin, il n'y a pas d'autre option, malheureusement.
D'accord, ok, je voulais juste savoir ça, s'il y a une autre solution.
Non, c'est terrible, hein, et c'est frustrant, ouais. Puisque, enfin voilà, j'allais dire, là, on est en train d'échanger, il n'y a pas de difficulté. Je comprends parfaitement ce que vous dites, mais voilà, c'est comme dans tous les diplômes, il y a un niveau à atteindre.
D'accord, ok, d'accord, c'est-à-dire, il faut que je travaille sur ça. En fait, moi, j'ai un problème sur l'écriture, en fait, c'est l'écriture qui me font... J'ai un souci sur l'écriture.
Sur l'accent aussi, non? Parce que là, vous... Non, je rigole.
Mais maître Serral, mais maître Serral, maître Serral.
Le vendredi, je rigole. On peut rigoler.
Non.
Non, mais.
Affreux.
Non, mais les épreuves sont dures, sincèrement. Les épreuves sont dures, sont compliquées. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Français de souche qui seraient incapables de réussir les épreuves. C'est-à-dire que quand vous voyez la nature des questions qui sont posées, et en particulier les questions de culture générale, enfin voilà, on est quand même assez sidéré. C'est-à-dire qu'on se dit, on fait quand même un peu tout. Pour empêcher les gens d'accéder à ces niveaux. Donc c'est un niveau qui est, en tout cas, je trouve, particulièrement compliqué. Et encore une fois, beaucoup de Français de souche ne seraient pas capables d'avoir ces diplômes-là.
Ouais. D'accord, ok. Bah, écoutez, merci beaucoup pour l'information.
Merci à vous pour votre question. Voilà.
Merci Fatima. Et puis bon, veuillez excuser Maître Serran qui est un affreux. Merci Fatima.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Maître Boily, deux. Il faut le faire en deux. C'est compliqué, non? Ouais, c'est compliqué. En deux minutes, répondre à une question, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer Yanis quand même. On le tente sur Yanis. Voilà, Yanis.
Oui, bonjour monsieur.
Voilà. Vous posez votre question, Maître Serran. Si on n'a pas le temps de répondre, Maître Serran vous répondra hors antenne, d'accord?
D'accord, elle est directe. Je voulais juste une réponse. En fait, moi, je m'appelle Yanis. Je vis en France depuis 2005. J'étais étudiant. Je suis naturalisé français en 2015. J'ai fait venir mes parents en visa touristique 2-3 fois. Ils ont eu le visa, il n'y a pas de problème. Je voulais savoir, s'il vous plaît, si je peux les faire venir en visa d'installation, parce qu'ils sont tout seuls en Algérie. Moi, je suis ici. Et je ne sais pas si j'ai le droit là ou pas.
Alors, vous pourriez, mais on va jouer sur... Le côté médical, c'est-à-dire que si vos parents sont par définition d'un certain âge, mais s'ils sont souffrants, s'ils ont besoin de la présence de quelqu'un, j'allais dire quasi au quotidien, on peut jouer là-dessus. Mais non, s'ils sont âgés, mais voilà, ils sont autonomes, en bonne santé, il n'y a pas d'argument particulier pour les faire venir, entre guillemets, à plein temps sur le territoire français.
D'accord. Non, ils sont pas souffrants, ils ont quelques maladies, mais particulièrement.
Ouais, enfin bon, voilà, mais non, donc dans ce cas, il faudrait qu'ils soient quasi dépendants de la personne qui demeure sur le territoire français. Vous voyez, pour que les autorités françaises puissent, entre guillemets, s'intéresser au dossier. Mais bon, si par définition ils sont âgés, mais ils ont pas plus de pathologie que ça, il y a rien juridiquement qui permettrait de les rattacher à votre présence sur le territoire.
Même si je suis naturalisé.
Quand bien même.
D'accord. Ok. J'ai la réponse. Merci beaucoup, maître.
Merci à vous pour votre appel.
Yanis. Voilà. Vous pouvez poser vos questions à maître Serrano Rantaine. Donnez-nous, s'il vous plaît, maître Serrano, oui. Votre numéro de téléphone.
Ouais. 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Alors, vous pouvez appeler maître Serrano ce week-end. Hein, il est de permanence.
N'hésitez pas.
On vous retrouve vendredi prochain, Maître Serran, demain. Je vous donne rendez-vous entre 10h et 11h avec l'imam Abdelali Mamoun pour l'islam au présent.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.